Train des pieds comme si j'étais une sale gosse. Je crois que je vais garder ce truc toute ma vie.
Dynamisme et audace, c'est apparemment comme ça que se résumerait mon année. Drôle de voyante que ce Spotify Wrapped qui associe la couleur violette au dynamisme, alors que j'aurais sans doute imaginé quelque chose de, je sais pas, d'un peu plus mélancolique peut-être. Enfin, j'adore le violet. Mais je dois dire que je suis plutôt déçu de ce qui se dégage de ce résumé de mes écoutes de l'année. Déjà parce que c'était d'un pénible sans nom à consulter, je n'ai jamais passé autant de temps devant un format story que devant celui-ci. Et puis parce qu'il me semble représenter assez mal mes écoutes de l'année. Bon, que SCH soit l'artiste qui en ressort le plus, j'imagine que le temps passé à écouter Crack et Loup Noir ne pouvait pas causer autre chose. Mais je trouve ça dommage en fait de retracer une année d'écoute qu'à travers la quantité. Impossible par exemple de retrouver dans ce top album l'album Spectre de Sheldon, sorti le mois dernier, que je parcours pourtant de plus en plus fréquemment à mesure que je l'apprivoise. Ne pourront pas non plus apparaître des titres comme Écrire de Nekfeu, Salomé de Pete Doherty, Dark Paradise de Lana Del Rey, dont les rares écoutes ne sont jamais la conséquence d'un algorithme qui coule sans qu'on y prête attention, mais sont au contraire choisies, cherchées, dans un moment que j'imagine un peu clé, construisant comme tout à chacun la BO du film de ma vie en direct. De quoi est faite la BO du film de la vie de notre invité du soir, Yann? Est-ce qu'il y a un artiste qui est ressorti? Toi aussi, t'as consulté ton Spotify Wrapped?
Ouais, effectivement. Je suis pas sur Spotify, je suis sur le concurrent, mais je suis sur Deezer. Mais j'ai effectivement, ouais, c'était assez rigolo parce que j'avais un artiste que j'ai extrêmement écouté par rapport au reste. Donc j'avais mon top 1, 2, 3, 4, 5, c'était les mêmes artistes.
Et de quel artiste il s'agit?
C'était Tamino.
Ok.
Voilà, je suis très fan de Tamino. Et puis de mémoire, il y avait donc 5 artistes. Donc c'était Tame Impala en numéro 1, Tamino en numéro 2. Après il y avait Elliot Smith.
Ok.
Et les deux autres, je sais plus.
C'est pas grave, mais c'est déjà un beau top 3, un beau podium. Ouais. Yann Cofield est avec nous ce soir dans l'émission de La Fresh List. Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à nous. Ton EP La Boule au Ventre est sorti le 24 septembre dernier et tu avais fait partie de La Fresh List d'octobre avec ton titre Tu me manques. C'est d'ailleurs le morceau que je lui envoie quand ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas pris la tête sur des titres à garder ou non. Simon est à mes côtés pour mener notre discussion. Oui, cette fois, Simon, tu me manques.
Oh, ça c'est va gentil. Ouais, ça va, et toi-même?
Très, très bien. Si nous étions un duo de DJ, je serais Daft et elle serait Punk. Ni plus ni moins. Elle réalise notre émission. Salut Camille.
Coucou.
Ça va?
Ça va bien, oui.
Enfin, elle tentera à nouveau ce soir de battre le record de mots prononcés sans respirer pour nous parler en plus d'un rappeur que j'adore. Bonsoir Faustine.
Bonsoir.
La Fresh List, l'émission des programmateuristes de Radio Campus Paris dédiée aux artistes que nous programmons et à la musique que nous aimons. C'est à suivre sur Instagram, sur Spotify et une fois par mois sur Radio Campus Paris. Et ça commence maintenant. Yann, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On dit ce soir, nous on enregistre le matin, donc c'est des moments un peu particuliers sur le plan temporel. C'est un petit déj qu'on vous propose à 22h30, vous qui nous écoutez. On est ensemble pour parler, entre autres, de ton EP, La Boule au Ventre. Et j'avais envie de commencer par te parler du choix du titre de cet EP, parce que La Boule au Ventre, c'est aussi le titre d'une série de courts-métrages que tu as sorti au début de l'année, dont on va parler un peu plus en détail ensuite. C'est aussi le titre d'un morceau.
Oui,
et
c'est ça.
À chaque fois, j'ai l'impression que la sensation de boule au ventre qui est décrite n'est pas exactement la même. Du coup, je me demandais ce que ça pouvait représenter pour toi, cette expression, ce sentiment.
Ouais, bah c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que la boule au ventre, alors pour déjà démarrer l'histoire, en réalité, c'est la chanson. Ça part de la chanson La Boule au Ventre, dont j'ai sorti le clip là.
Qui est sorti hier pour nous.
Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est la chanson qui m'a donné confiance en moi dans le fait d'écrire en français, etc. Okay. Parce que j'étais assez fier de ce texte. Et finalement, du coup, ça a été un point de départ, en fait, au moment où j'étais dans ma réflexion de création d'EP, justement, et où je me demandais qu'est-ce que j'allais bien mettre sur cette EP. Et je trouvais que ce morceau, il me représentait vraiment bien parce qu'il avait, musicalement, il avait quelque chose déjà qui me collait bien. Et puis en termes de texte, je m'y retrouvais bien dans ma manière d'écrire, etc. Donc je me suis dit, allez, partons de ça. Et j'ai rapidement trouvé ce nom, La Boule au Ventre. Enfin, je me suis dit que pour l'EP, ce serait le mot le plus approprié, enfin le titre le plus approprié, parce qu'il y a d'autres morceaux finalement qui ont des titres assez simples et pas forcément toujours évocateurs ou mystérieux. Enfin, j'aime bien qu'il y ait une part de mystère dans ce que je fais. Et je trouve que La Boule au Ventre, ça évoque plusieurs choses. Enfin, c'est dans cette chanson, La Boule au Ventre, ça évoque plutôt un sentiment d'amour. Mmh. Enfin, la boule au ventre qu'on a quand on est amoureux. Et que...
Oui, il y a une espèce de côté chaleur positive aussi qui peut être un stress, mais qui est quand même quelque chose de
ça,
plutôt
positif. C'est toujours
de
ce truc
positif.
De petite adrénaline en fait, qu'on se donne. Donc là, en l'occurrence, quand on est amoureux, donc dans cette chanson, je regarde une photo et je suis amoureux de la personne qu'il y a dessus et ça me donne la boule au ventre. Et finalement, après, quand j'ai trouvé le nom de cette chanson et que je me suis dit que j'allais appeler l'EP comme ça, on a décidé ensuite effectivement de faire un court métrage de manière totalement spontanée. En fait, on n'avait pas de base même pas réfléchi à faire un court métrage, on voulait juste faire un format vidéo pour les réseaux sociaux pour me présenter et puis faire ça de manière, j'ai envie de dire, plus artistique. C'est pas forcément prétentieux, mais je veux dire, aujourd'hui, les contenus vidéo qu'on peut voir sur Internet sont souvent travaillés d'une certaine manière et souvent pris en selfie, en machin, etc. Et moi, j'avais envie de proposer autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire plusieurs épisodes au départ sans même penser à l'histoire que j'allais raconter. Donc c'est ça qui était assez rigolo, c'est que finalement on a fait un premier épisode, un deuxième.
Pour que les gens se représentent, c'est des suites d'images de toi dans différentes... on peut te voir marcher, on peut te voir émerger un peu d'une position ensommeillée, allongée dans des feuilles mortes, parcourir un paysage urbain et t'adresser en voix off pour le coup à quelqu'un.
Ouais, c'est ça, donc à quelqu'un. Et finalement, c'est les phrases que je disais en voix off au départ, en commençant cette série court-métrage, parce qu'en gros, le but, c'est de faire un court-métrage, mais qu'on a découpé en 5 épisodes. Et finalement, on ne savait même pas combien on allait faire d'épisodes au départ, on ne savait même pas qu'on allait faire un court-métrage. C'était vraiment juste du plaisir, en fait, de se lancer dans quelque chose qui ressemblait à du cinéma avec
que tu co-réalises en
pas plus. Beaucoup de moyens. Ouais, en fait c'est moi qui étais à la base de ce truc là et donc en fait je voulais ramener un petit peu ce côté Caulfield en fait, qui est une référence à La Trappe-Cœur. Mmh. Où finalement on a ce personnage qui déambule dans la ville et qui nous fait part de ses idées, de tout ce qu'il voit, de
beaucoup de son sentiment particulier par rapport au temps et
voilà,
de son sentiment parfois un peu de décalage par rapport à son environnement. Il y a toute une scène où tu es face à la télévision, il y a un côté rapport à l'actualité qui bouillonne un peu et qui peut dépasser.
Ouais, exactement. Et puis c'est assez psychologique en fait finalement, parce qu'on voit des décors, on voit tout ça, mais on est toujours un peu dans sa tête. J'avais envie de donner un peu la même chose sous forme de vidéo finalement, et à ma manière. Et donc finalement, en filmant, en faisant un, deux épisodes, après on s'est dit bon, si on continue comme ça, on va vite tourner en rond. Donc il faudrait qu'on raconte une histoire. Et finalement, cette histoire, je l'ai vite trouvée. Et bon, là, le cinquième épisode n'est pas sorti, donc... Voilà, j'en dirais pas forcément
garde encore
plus,
un peu.
Mais je suis assez content de ce qu'on a fait, et puis c'était surtout du plaisir. Et donc finalement, pour reprendre la boule au ventre, c'était ce sentiment aussi. Enfin, au travers de ce film-là, je voulais raconter un petit peu comment dire, je trouve pas le mot, mais la peur qu'on a en fait vis-à-vis, enfin quand on est artiste en 2021, du contexte en fait, qui fait que ça devient très difficile.
C'est un sentiment que
émergent, parce que on a finalement on est presque interdit de bosser, enfin pendant un an et demi c'était le cas, aujourd'hui on en paye un peu les conséquences. Et finalement, c'était une manière pour moi de le raconter autre part que dans une chanson. Je l'ai déjà plus ou moins fait dans la chanson « Ne te retourne pas » dans mon EP. Mais voilà, du coup, je voulais mettre aussi un peu du lien en fait avec tout ce que je raconte dans mes chansons. Je voulais un petit peu le développer un peu plus et de manière plus naturelle, enfin moins cadrée par le format chanson, quoi.
Nous, on t'a découvert en fait à Radio Campus avec ton projet sous son format chanté en anglais. C'était il y a 3 ans, il me semble, 2018, tu avais sorti un premier titre. C'était le moment aussi où tu as été sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges. Et tu évoquais juste à l'instant le fait, avec ce premier morceau, La boule au ventre, de switcher en français. Comment le cheminement est né? Est-ce que c'est, outre le cheminement intellectuel de passer au français, est-ce que ça change quelque chose dans ta manière d'aborder juste la musique, la musicalité, ce que tu veux exprimer, que de chanter en français?
Ouais, bien sûr. Donc j'ai commencé en fait mon projet il y a 4 ans en faisant des maquettes en anglais. À l'époque, j'étais à Reims, j'étais très influencé par la scène rémoise qui est très indie pop en anglais. Et donc j'ai commencé à faire quelques morceaux, j'en ai sorti un, même deux. Mais j'ai vite arrêté de vouloir sortir des morceaux parce que je me suis dit que j'avais pas de vision à long terme de ce que je faisais réellement. Alors musicalement quand même, je pense que j'ai gardé une certaine patte qui me correspond. Après, dans la manière de chanter, de raconter des choses, j'ai besoin de me trouver un peu plus. Donc j'ai fait une pause et j'ai continué de composer des chansons et de m'entourer, de rencontrer des gens qui, au travers du temps, m'ont dit que les morceaux que j'avais fait en français étaient pour eux plus intéressants. Et j'attendais aussi d'avoir plus de retours, de pas me cantonner qu'à 2 ou 3 avis. Et finalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal ressorti. Et donc, j'avais un peu du mal au début à savoir quoi faire. Quand finalement, du coup, j'ai écrit ce morceau, La boule au ventre, où là, je me suis dit, ah, c'est chouette quand même. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment raconté une belle histoire et d'avoir écrit un joli texte. Et donc, je me suis senti capable de le faire, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on démarre, qu'on est un peu sollicité, comme des choses comme les Inouïs du Printemps de Bourges, qu'on est amené à faire une première partie dans une grande salle, j'avais fait une première partie à l'Olympia, ou ce genre de choses. En fait, dans ces moments-là où on n'a pas encore achevé vraiment sa réflexion artistique, on a tendance à avoir un énorme syndrome de l'imposteur. Et donc beaucoup de remises en question. Et finalement, il y a un moment donné, j'ai un peu fait un break. Et là, j'ai pris les décisions en fait, qui ont suivi, donc, à savoir de faire du français, quoi.
Voilà. Dans les thèmes que tu choisis d'aborder à travers cette EP, beaucoup reviennent à l'enfance, à cette question du temps qui a filé depuis qu'on est enfant, des questionnements qui finalement, on a l'impression que tu en as plus, en tout cas le personnage que tu choisis d'être dans ton EP, qui peut coller plus ou moins à ce que tu es, en a plus aujourd'hui que lorsqu'il était enfant. Comment s'articule pour toi cet aspect adresse presque directe à une espèce de vision de l'enfance dans ton écriture? Qu'est-ce qui t'amène sur cette thématique-là, que ce soit à travers tes morceaux ou même à travers ce qu'on peut voir de toi dans les séries de courts-métrages qu'on évoquait?
Ce qui m'influence pour faire ça, tu veux dire?
Ce qui t'amène à évoquer ces thèmes-là dans un EP composé en français pour la première fois pour toi. Qu'est-ce qui t'a guidé dans cette approche de l'écriture?
C'est quelque chose que j'ai pas spécialement réfléchi en fait. C'est des premières chansons où le texte qui arrivait rapidement, il était lié à ça. Alors finalement, dans l'EP, ça parle pas que de ça. Il y en a deux particulièrement. Et finalement, ce qui m'a un peu amené dans cette thématique globale-là, c'est que j'aime beaucoup des instruments, par exemple, qui sont des instruments de jouets d'enfants, ou des... Enfin, j'aime beaucoup, par exemple, les instruments que peut utiliser Danny Elfman dans les films de Tim Burton, ou ce genre de choses.
Tout cet aspect un peu cloche, parfois, de ces mélodies-là.
Et qui, finalement, pour moi, ramène assez facilement à l'état d'enfant. C'est-à-dire que c'est des sons qu'on utilise plus, qu'on entend plus quand on est enfant. Et finalement, c'est un mood dans lequel je me sens bien. Et voilà, quelque part, je me demande si des fois la musique me... me ramène pas elle-même juste dans ce mood de l'enfance, en fait, simplement parce que c'est la musique qui me plaît. Je parle des sonorités.
Oui, hein. c'est intéressant parce que tu le lis beaucoup à des questions d'instruments et de mélodies, finalement.
Ouais,
aussi.
Voilà, c'est ça. Et donc, après, en termes d'écriture, c'est quelque chose que j'avais envie de raconter parce que, jeune adulte qui a vécu des choses, des fois, un peu, enfin, des déceptions, etc. Ces dernières années, j'ai traversé quelques épreuves pas évidentes et qui finalement me font dire c'était quand même plus simple avant.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie dissociation de ta part à ce niveau-là. On n'a pas l'impression d'écouter les chansons de quelqu'un qui dit bonjour, je vais vous parler de moi et de mon vécu. Il y a une prise de recul sur ça de ta part, dans ton écriture, je trouve.
Ouais, parce que j'ai toujours tendance à me dire que, bon, c'est pas forcément évident à mettre en place, mais que je préfère que les gens puissent l'approprier aussi, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai parlé de soi, je trouve que c'est quelque chose qu'on entend énormément aujourd'hui dans la musique et qui est bien, hein. C'est bien que les gens puissent avoir accès à l'artiste, etc. Je trouve que des fois, c'est pas évident de s'identifier, en fait, parce que chacun a des histoires tellement personnelles et tout ça que moi, j'aime bien quand on peut l'interpréter aussi un minimum. Alors, j'ai pas envie non plus de faire quelque chose de trop métaphorique et que on se met à plus rien comprendre. Mais oui. Par contre, j'aime bien quand ça reste assez évasif et que, tu vois, tu parlais de la boule au ventre tout à l'heure. Ça peut dire plein de choses à la fois. Et en même temps, c'est un terme assez simple. Et donc j'essaie d'utiliser des termes un peu comme ça où les gens peuvent comprendre et facilement se les approprier à leur manière, quoi.
Outre l'aspect texte, il y a évidemment dans ton travail, dans ton projet, une musicalité qui est assez forte avec des mélodies très présentes. Tu parles des instruments que tu utilises. Comment tu orchestres tout ça? Dans quelle direction tu as voulu partir dès le départ? Est-ce que tu avais une idée assez précise avec des influences très connotées ou c'est plutôt une nourriture de diverses choses qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui?
Alors la première chanson par exemple que j'ai faite, c'était pas grand chose, la première chanson de l'EP, c'est la première chanson, elle date vraiment beaucoup, c'était au tout début, c'était une première maquette, à l'époque bon j'étais toujours très fan de Tame Impala, où on en entend aussi dans The Less I Know The Better, et finalement c'était un peu inspiré de ça. Après moi j'ai toujours été dans la réflexion de l'EP, même si ça s'entend pas toujours forcément. J'ai été dans une grosse phase où j'écoutais énormément Aphex Twin, Tom York aussi, et après j'ai écouté beaucoup Brassens, et après sans parler des choses qu'on peut écouter actuellement, Nekfeu ou Orelsan pour des mises en forme de textes plus nouvelles.
On peut le dire aux auditeurs, tu fais partie de ces artistes qui sur Spotify proposent une playlist de leurs influences, notamment des morceaux qu'ils apprécient et qui ont pu les influencer. Et c'est vrai que c'est assez éclectique.
Ouais, il y a plein de choses. Ben, c'est vrai que j'aime pas forcément m'identifier à une scène musicale parce que moi je chante en français, mais c'est pas pour ça que je m'identifie forcément à une scène de pop en français. C'est plus plein d'influences en fait qui souvent viennent d'ailleurs plus d'Angleterre. Qu'autre chose, et les textes c'est ce que j'aimais bien aussi en fait au départ, c'est le fait que j'ai sûrement une culture musicale en tout cas de la chanson française qui est je pense un peu à la ramasse par rapport à plein de gens qui chantent en français, et je trouvais ça cool parce que du coup je m'influençais pas trop et que j'avais une manière d'écrire à moi. Donc maintenant depuis j'ai écouté beaucoup de choses en français, mais voilà, je crois que j'ai même oublié la question de départ. Je sais pas si ça répondait, mais
j'ai une autre question qui me vient parce que évidemment c'est un élément clé qui fait le lien entre le texte et la musique, c'est la voix, la façon dont tu places la voix. Est-ce que c'est quelque chose d'assez spontané, d'assez inné, la façon dont tu t'es mis à chanter à la fois sur les textes de couplets, mais aussi sur le refrain? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très chanté à l'anglaise, mais en français. Est-ce que c'était naturel? Comment c'est venu?
Ouais, c'était assez naturel parce qu'en fait, j'ai eu quand même un groupe au lycée où je chantais et où d'ailleurs je chantais aussi en français, mais j'étais toujours dans cette démarche de je voulais écouter des trucs en anglais et refaire un peu la même chose en français. Donc, par exemple, il y a un groupe, des fois, on me dit « Ah, c'est marrant, t'as un peu la même manière de chanter, Cage the Elephant », où, en fait, vraiment, je suis très fan, hein, de ce groupe. Et c'est vrai que j'ai tellement été... j'ai tellement commencé à chanter avec ce genre de groupe, des groupes plus anciens. Je me souviens, quand j'avais une voiture, à l'époque, j'avais une cassette, enfin, c'est la voiture de ma grand-mère, j'avais une cassette de Led Zeppelin, et je m'entraînais à chanter sur la cassette. Donc c'était toujours des trucs quand même très anglais, très au perché et tout. Et
oui, ça s'entend dans ta façon de placer la voix. Tu dis au perché, justement. Tu vas placer ta voix dans ce registre qui est pas crié, mais qui est poussé un peu sur la gorge.
Alors, sur les prochains morceaux qui sortiront, je pense, sur l'album, etc., ça sera un peu calmé quand même. Parce qu'entre-temps, je me suis rendu compte que c'était bien aussi, de chanter
un registre
de manière
plus posée
et tout ça. Mais oui, je garderai toujours cette influence-là, en fait, parce que bah, voilà, ça part quand même de mes influences, et je trouve ça cool.
La saveur que ça a, surtout dans la musique d'aujourd'hui, c'est que par rapport à cette utilisation de ta voix est très peu traitée, voire vraiment quasiment pas sur certains morceaux.
Ouais, c'est vrai. Et ben oui, parce que je suis pas très fan, en fait, du traitement de voix. Alors déjà, c'est pas un truc de vieux con ou quoi, mais genre l'autotune, je trouve que on entend plus trop la voix finalement quand il y a de l'autotune.
Enfin, on cache certaines imperfections que toi tu choisis de pouvoir garder dans tes morceaux.
Ah ouais, il y a peut-être un peu de ça. C'est vrai que tu parlais de Pete Doherty tout à l'heure. Moi, j'adore le fait que t'as l'impression qu'il chante toujours un peu faux. Et que finalement, Pete Doherty, moi, c'était Baby Shamble, c'est le premier album que j'ai acheté de ma vie. Ça reste vraiment un artiste, pour moi, c'est une de mes idoles. Et finalement, je trouve que c'est ça qui fait le charme, en fait, de ce mec. C'est quand il chante, les fins de phrase, elles sont pas toujours en place, etc. Il y a vraiment de l'âme, en fait, dans...
Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi.
Plus on traite une voix, et finalement plus on va retirer l'accès à ça.
Pour parler, juste pour continuer de parler un peu de traitement, je vais faire le lien avec une scène que tu choisis de montrer dans le deuxième épisode de justement cette série de courts-métrages, où tu es en studio et vous parlez avec la personne qui mixe ton album, des effets, de la réverb et de la grandiloquence des morceaux. Dans tes influences, tu nous as cité beaucoup d'artistes, je pense à Thom Yorke, beaucoup qui ont cette approche d'un son assez intime, de ce côté grosse proximité avec la personne qui écoute. Et je pense qu'un morceau comme Tu me manques ce côté très... On le voit dans votre échange où lui te dit, là sur le refrain, on peut y aller, on peut mettre de la réverb, on peut donner de la grandeur à tout ça. Et on sent que c'était pas... Naturellement, t'allais pas vers ça. Toi, t'étais plus justement dans ce côté un peu plus intime du mix.
Bah oui, à fond. Moi, c'est un truc où la réverb, en fait, c'est un... On l'apprend, en fait, souvent au départ, quand on fait nos premières chansons sur un ordinateur, on a tendance à blinder les effets parce que l'enregistrement, il est pas super, machin.
Ça rend un peu plus beau au début.
Donc au début, c'est assez flatteur. Mais finalement, tu te rends compte... Enfin, j'ai appris avec le temps, je me souviens, c'est Phoenix qui disait ça aussi. Alors, je veux pas forcément me comparer ou quoi.
Non, mais ils ont fait beaucoup de formats pour détailler comment ils travaillaient leur son, et c'est très intéressant.
Et en fait, typiquement, sur leur album Wolfgang Amadeus, il y a très très peu de réverb. Mais en fait, ils disaient toujours à Philippe Zidar, on veut pas de réverb. Parce qu'en fait, je trouve que... Moins on a de réverb finalement, en tout cas qu'on entend, parce qu'il y a toujours des réverbes qui servent à fluidifier le mix, etc. Mais ou plus on se le prend en pleine tête, en fait, le morceau. Et donc c'est vrai qu'au départ, j'utilisais très très peu de réverb, et quand on arrive au mix et qui nous dit, ouais, là, faut mettre des réverbes, finalement, je suis en mode, ouais, j'ai l'impression que j'entends plus rien, tout est loin. Et puis finalement, voilà, on a trouvé un compromis, mais ouais, à la base, oui, j'avais pas envie de ça. Et après, forcément, y a quand même une certaine évidence, en fait, quand je suis arrivé, qu'on a commencé le morceau « Tu me manques », Il m'a dit, ah ouais, Liam Gallagher, enfin le morceau Oasis là. Donc pour lui, ça lui évoquait ça. Et finalement, ben, Oasis, t'as une énorme réverbe partout, quoi. Donc chacun sa vision en fait. Mais c'est vrai que je trouve aussi finalement la réverbe quand, sur une voix, ça, ça enlève de l'intelligibilité au texte. Mmh. Et j'avais envie que les gens comprennent bien ce que je raconte. Ne pas me cacher derrière.
Ah, pour le coup, ta voix n'est pas masquée
effets,
du tout. Hein.
Donc voilà.
On a cité beaucoup d'artistes, des guitaristes, des producteurs, des claviéristes. Toi, quels instruments tu pratiques? Et surtout, j'ai envie de savoir quel instrument guide le moment où tu commences à composer. Est-ce que tu viens de la guitare? Est-ce que tu viens du clavier?
Moi, je viens de la batterie.
Tu viens de la batterie?
Ouais, okay. Je viens de la batterie. J'ai fait, j'ai commencé à batterie à 7 ans, donc j'ai très longtemps fait de la batterie. Et d'ailleurs, j'ai toujours été batteur avant de faire ce projet. Et donc, en fait, à un moment donné, oui, je me suis quand même mis à la guitare et plus récemment au piano. Mais c'est vrai que j'ai très longtemps fait que de la batterie. Quand je compose, j'ai plus tendance à me mettre au piano, justement, parce que, je sais pas, c'est un instrument que je connais un peu moins. Et du coup, c'est plus excitant, en fait, parce que je sais jamais trop exactement ce que je vais faire. Et alors, des fois, c'est plus long, des fois, c'est un peu frustrant. Mais quasiment tous les morceaux que j'ai faits, je les ai composés au piano, finalement.
Quand tu composes, là, on a parlé à l'instant de l'épisode 2, dans lequel on voit Julien Delfaux, qui est du coup le mixeur de l'EP. Quand tu composes, tu travailles avec Alexis Delon. Comment est née la relation avec lui? Comment fonctionne ce duo, en fait, que tu formes avec lui?
Alors, Alexis Delon, donc c'est un des membres du groupe Inuit que j'ai rencontré en fait en faisant leur première partie tout simplement quand je démarrais et je me suis assez vite entendu avec eux. À l'époque, Alexis travaillait avec un mec qui s'appelle Benjamin Lebeau,
des Shoes,
donc est un des membres du groupe The Shoes et qui finalement en fait à la base c'est Benjamin qui voulait qu'on bosse ensemble mais qui avait pas trop le temps et qui avait ce binôme justement avec Alexis, donc je me suis retrouvé à bosser avec Alexis. C'était pas plus mal parce que finalement Alexis c'est un mec qui a mon âge quasiment et avec qui on partage les mêmes références, on est hyper copains là-dessus quoi, donc on s'est vite très bien entendu et à partir de là on a commencé à bosser sur les premières maquettes jusqu'à finir l'EP.
Et aujourd'hui il t'accompagne également en live, enfin du moins il était sur scène avec toi au Point Éphémère quelques semaines.
Alors ouais, en ce moment on joue ensemble sur scène. Au départ j'avais un peu envie de trouver aussi de rendre mixte le groupe. Au bout d'un moment quand j'ai Alexis, donc mon pote, qui me dit ouais j'ai envie de venir jouer avec toi, je me suis dit bon bah ouais je vais pas, enfin c'est difficile de refuser.
Puis c'est plus sympa de partir entre potes pour tourner.
Ouais bien sûr, mais c'est vrai que là c'est hyper agréable, et puis on se connaît bien, et puis ce qui est bien aussi c'est que en faisant des concerts ensemble on a quand même une vision aussi sur ce qu'on va faire plus tard, parce qu'il y a certains morceaux qu'on joue qu'on n'a pas encore fini de produire. Donc le fait de les jouer en live, on se rend compte des fois de ce qui manque, de ce qui est en trop, donc c'est une bonne chose. Ouais.
Avant qu'on marque une première pause, moi je voulais te parler de quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec ce dont on discute, mais simplement que ce soit à travers tes courts-métrages ou à travers le visuel du morceau Tu me manques quand il est sorti en single. Tu sembles parfois prendre aussi un petit peu. Alors après, c'est plus facile parce que t'es blond, t'as les cheveux longs, tout ça. Tu singes un peu parfois certaines moues et certaines attitudes de Kurt Cobain. Quand. Je trouve que à travers le visuel du single, surtout, c'est flagrant. La moue que tu prends sur le. Puis on peut te voir, jean troué, clope au bec dans tes courts-métrages. Est-ce que c'est quelqu'un qui. Est-ce que c'est une figure, c'est volontairement une figure à laquelle tu as envie de faire référence parfois à travers ton attitude, ou c'est plus un clin d'œil comme ça un peu
Je sais pas trop finalement, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai vu en fait un film Last Days de Gus Van Sant, qui m'a vachement marqué. J'ai trouvé l'esthétique du truc énorme. C'est juste... bon, après, c'est très visuel, en fait. Hein. Il se passe pas grand-chose dans le film, mais tout est très visuel et tout ça. Et ça m'a pas mal marqué. Après, c'est vrai qu'on a vite tendance à assimiler des gens qui ont des coupes de cheveux qui peuvent lui ressembler, etc.
Simon a l'air de valider aussi.
Donc finalement, c'est vrai que il y a eu un moment donné, je mettais une casquette, on me disait toujours Mac DeMarco.
Ouais.
Après, on m'a dit je ne sais plus qui. Bref, et puis aujourd'hui, il y a un peu ce truc de Kurt Cobain. Après, c'est pas forcément voulu à la base, c'est juste que je suis quelqu'un qui est pas très à l'aise en fait avec les codes vestimentaires qu'il faut s'approprier tous les ans, qui changent et tout ça. Ça me représente pas, ça représente pas trop ma manière de d'écrire et tout ça. Et finalement, du coup, oui, il y a un certain laisser-aller et qui des fois peut penser à...
Ou du coup, ça peut s'assimiler un peu...
Qui s'assimile du coup un peu au côté grunge, en fait, où justement, c'était les codes de cette époque-là, c'était de s'en foutre un peu. Et donc voilà, je pense que ça vient un peu plus de ça que du fait volontairement de...
Ah oui, bah c'est pour ça que je posais la question en ce sens-là.
Ouais.
Eh bien écoutez, je vous propose qu'on se l'écoute justement ce morceau « Tu me manques » et on revient juste après.
Quelquefois je me penche à la fenêtre et je pense aux camarades échappés de la bromance. Je repasse mon film favori de l'enfance, passé à s'enivrer de longues nuits blanches. Comment va-t-il, comment va son cœur? J'aimerais le lui demander. Où ces vieux carousels de malheur sont-ils encore bien passés? Quelque part ailleurs à mon anniversaire, je recrache ce qui s'apparente au dessert. M'offrez pas d'almanach, ce n'est pas la peine. Demain on sera déjà l'année prochaine. Puis qu'est-ce que j'y écrirai d'ailleurs? Je vais vous le dire tant qu'on y est. J'y déchirerai toutes les feuilles et vous laisser ramasser. Je lance des regards aux canards à l'abri du sens. Au hasard, ils s'égarent dans leur insouciance. De leur marre, ils me narguent à jouer en silence. D'ailleurs, en parlant de ces amateurs, j'aimerais bien vous demander. Quand l'hiver viendra piéger leur cœur, qui donc viendra les chercher?
Field. Là, il y en a de la réverb sur la fin. qui faisait partie de la fresh list d'octobre. Vous écoutez toujours Freshlist, l'émission, l'émission des programmateuristes de Radio Campus Paris. Tu parles dans ce morceau, Yann, de ton film favori de l'enfance que tu te remets de temps en temps. C'est quoi ton film favori de l'enfance ?
Bonne question. Là, spontanément, je dirais, j'en ai deux qui me viennent.
Vas-y.
Billy Elliot.
Ok.
Voilà. Ça, c'était vraiment mon film que j'ai dû mater à peu près 3000 fois. Je voulais être Billy Elliot plus tard, même si je pensais pas danser dans ma vie, tu vois. Genre, c'était pas le but de danser, mais juste le mec, il me fascinait.
Ouais.
Dans les quartiers anglais et tout. Enfin, je sais pas, l'Angleterre, ça m'a toujours fasciné quand j'étais ado, enfant et tout. Et puis Edouard aux mains d'argent aussi.
Ok.
Voilà, c'était vraiment incroyable. La musique, surtout. En fait, c'est la musique de ce film, je la trouve magnifique. C'était un point de départ d'ailleurs aussi à ce que je fais musicalement. Je voulais faire de la pop avec cette patte-là, quoi. Bon, c'est ambitieux hein, parce que c'est Danny Elfman, mais
d'avoir un peu. Ah, mais tu vois dans quelle direction ça peut aller.
Voilà, c'est ça.
Faustine, t'es pas là pour nous parler de films, mais est-ce que t'as un film favori de l'enfance, toi ?
Titanic.
Ah, Titanic.
honte.
Non, pas la honte. Moi, j'ai jamais vu Titanic. Pour
bah,
tout
ça,
vous dire.
C'est la honte.
c'est plutôt moi qui ai la honte, effectivement. Non, toi, tu es là plutôt pour nous parler de musique, même si je crois que tu as eu un mois de novembre un peu difficile.
Ah, ça oui, Erwan, il s'est passé énormément de choses dans le domaine musical depuis la dernière Freshlist. D'abord, Avril Lavigne est de retour et c'est la meilleure version d'Avril qu'on retrouve. Dans son nouveau single intitulé Bite Me, elle envoie balader un amant qui l'a traité n'importe comment et en plus, elle est coiffée et habillée presque exactement pareil que dans le clip de Girlfriend. Grand moment de nostalgie prépubère, j'étais à deux doigts d'aller me dégoter une paire de Vans slippers à carreaux noirs et blancs. Au festival Ici Demain, j'ai découvert Frantis of Delirium et il y a de fortes chances que je représente 90% de leurs écoutes web. Les Spotify Wrapped ont captivé mon attention la plus totale pendant 3 jours parce que je m'appliquais à lire tous ceux que je croisais. Vraiment, ça m'intéresse. Si je vous suis sur Instagram, n'hésitez jamais à partager des pastilles musicales parce que vous pourrez être sûr qu'il y aura au moins une personne qui les écoutera et ce sera moi. Tout était donc super bien parti, des sorties remarquables, de la bonne musique, mais ça, c'était avant le drame.
Est-ce que tu veux dire que le rock indépendant n'est plus ton genre majeur sur Spotify ?
Et non. Enfin, si, enfin non, mais j'ai fait la paix avec l'idée d'avoir écouté plus de pop française qu'autre chose en 2021. C'est pour vous ça, Team Dub, Ben Mazué et Silly Boy Blue. Non, le véritable tremblement de terre a été l'extinction de mon casque. Capote terminée, cassée, enterrée. Voilà maintenant 2 semaines que j'erre dans les couloirs du métro comme une âme en peine, en me rendant compte que oui, Paris est une ville bruyante, mais que j'apprends aussi des trucs super intéressants en écoutant fatalement les discussions des gens assis à côté de moi. Cependant, alors que je regarde les paysages en me chantant intérieurement mes albums préférés, une mélodie persiste.
Promis qu'on ira voir la mer.
Mais oui, c'est vrai ça.
Quand c'est la merde.
L'UJPK a sorti Montagne Russe, son nouvel album. À la première écoute, j'ai pas loin de 16 ans et je suis à deux doigts de m'acheter un sweatshirt Columbine. Mais rapidement, je suis de nouveau un peu plus vieille et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que je suis en train d'écouter. Je sais pas trop dans quel genre musical je me trouve. Tantôt j'ai l'impression d'écouter du Giorgio, tantôt du Vianney. Et je me dis que le duo avec Céron, c'est vraiment le pompon. Je passe les 4 premiers morceaux à râler bêtement. Ni ni ni, écrire comme un minot de 17 ans quand on en a 25, c'est nul. Et j'ai pas d'autre argument. Mais juste à temps pour faire taire la voix dans mon cerveau pleine de jugement, une petite guitare sèche chaloupée, un petit beat épuré et la voix de Luigi qui n'a jamais finalement cessé de me charmer depuis le lycée. Souvenir d'une sombre soirée, qu'est-ce que c'est que ce truc que je viens de prendre ? Je ris 10 secondes avant de me retrouver dans un ailleurs pas très accueillant. Je suis persuadée que tout le monde me veut du mal et pire encore, je me convainc que tout ce que je vis là, tout de suite, c'est faux. C'est une création de mon esprit mourant, putain, je m'en veux, pourquoi j'ai fait ça ? Entre discours incohérent et plongée sous-marine dans mon propre cerveau, il n'y a qu'une seule question que je réussis encore à me poser. Je suis dans la vraie vie ou dans un rêve ?
T'angoisses derrière une paire de solaires very rares, les sourires sont malsains et l'ambiance est macabre. T'as pris un mauvais truc et tu pars en batte, quand tu vas revenir, il sera trop tard.
Autant je trouve Montagne Russe parfois un peu immature, avec des paroles à la limite de la candeur, mais je me rends vite compte que c'est à l'image de ce que ça raconte. Être jeune, c'est pas être futé en permanence, mais ça t'empêche pas de te poser des questions importantes. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir cet album comme une introspection de la part de l'JPK, un retour sur son début de vingtaine ? T'es plus un gamin, une gamine, c'est certain, mais t'es pas non plus une adulte. t'as le raisonnement du premier face aux enjeux de la vie du deuxième. Cet album est protéiforme pour coller avec le propos. Ça passe du coq à l'âne, ça se veut tout aussi sérieux que léger, parce que c'est tout le tumulte de la vingtaine. Être adulte, mais pas trop non plus.
Hey Juno, moi je n'ai rien dans le ventre, je n'ai fait que lui donner le sirop qui fait les enfants, mais on est dans le même bateau et je peux tout entendre si tu penses que c'est trop tôt.
De cet album, je fredonne régulièrement ces trois morceaux avec une affection toute particulière pour Juno. Référence directe au film de mon adolescence en filière littéraire qui a posé les jalons de pas mal de questions concernant le rapport au corps, à l'amour et au choix. Et on lui parle à Juno, on lui dit qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle n'est pas seule et que c'est elle qui décide. Même si on la connaît pas très bien, on la respecte. Je trouve cette chanson vraiment touchante. J'adore l'étrange pudeur et la modestie de l'UJPK face à cette situation dans laquelle il s'implique pourtant pas moins. Ça me fait plaisir de me dire qu'une génération de petits ados pleins de testostérone écoute actuellement ça, qu'ils reçoivent ce genre de messages et que plus tard, ils n'hésiteront pas à être gentils, attentifs et qu'ils emmèneront leurs amoureuses à la plage au lieu de taper dans un mur quand ils sont contrariés. Quoi qu'il en soit, bravo l'UJPK, dans le fond on s'en moque de ce que je raconte sur ton album. On sent que tu parles de choses qui te touchent, que tu t'es fait plaisir à le monter et ça me fait vraiment plaisir pour toi.
J'avais envie de parler avec toi Yann des percussions dans ton album et j'ignorais à ce moment-là que tu étais batteur, donc ça m'intéresse encore plus. Faustine nous parlait d'un rappeur qui a choisi dans son album de verser dans un côté relativement pop aussi, chanson, mais on constate de plus en plus que ce registre-là a été complètement redéfini par le fait que le rap est devenu un genre vraiment majeur en France, et ça s'entend beaucoup dans les percussions, et je trouve qu'on trouve des traces de ça aussi dans ton travail, notamment l'usage que tu vas faire des kicks, l'usage que tu vas faire des hats aussi sur certains morceaux. T'as un morceau qui a une phase presque two steps qui dure un petit peu en fond à gauche. Comment toi, en tant que batteur, t'as approché ce travail? T'as utilisé des boîtes à rythme aussi pour pouvoir travailler ton projet. Comment tu as approché cette nouvelle façon de travailler les percussions, en fait?
Alors, ce qui n'est pas forcément évident quand on fait de la musique, justement, quand on produit dans un home studio comme je fais, parce que moi, finalement, j'ai travaillé la plupart de mon EP dans ma chambre ou dans la chambre d'un pote.
C'est là que sont faits les meilleurs EP.
Exactement. Et c'est que finalement, dans une chambre, on n'a pas de quoi enregistrer une vraie batterie, on n'a pas de quoi trop enregistrer finalement des percussions, etc. Donc ça passe beaucoup par la programmation sur l'ordinateur. Et finalement, c'est vrai que j'aime bien les choses un peu originales, en fait, rythmiquement. Et c'est vrai quand on va dans la two steps, justement, plutôt ces genres-là, c'est vrai que c'est, je sais pas, je trouve qu'il se passe quelque chose d'original. C'est pas un simple boom chak avec un son de kick, un son de snare particulier, mais après je sais pas trop finalement, parce que c'est tellement différent de programmer de la musique que d'en jouer, que des fois moi ça me perd un peu qui suis batteur, en fait c'est pas du tout les mêmes réflexes. C'est pour ça que bien souvent, pour l'EP en tout cas, j'ai fait des premiers jets de batterie en fait, mais programmés, qui souvent ressemblent pas à grand chose, parce que moi je le pense comme de la batterie jouée, et que finalement quand tu appliques ça à une programmation par ordinateur, ça rend pas bien finalement. Donc souvent, j'ai laissé le gars avec qui je travaille, Alexis, s'occuper justement de la programmation de la batterie. À part pour certains morceaux, en fait, ça dépend. Hein, mais par exemple, Plein d'imagination, là où il y a la two step, justement, c'est lui qui l'a mise en place. Et voilà. Mais par contre, c'est justement un truc qu'on s'est dit pour l'album, pour la suite, c'est que justement, on s'était pas assez servi du fait que je sois batteur et que j'ai envie justement de plus creuser ce côté-là, quoi.
Dans on a parlé rapidement du live, mais dans le live, il y a un côté rock très affirmé, très présent. Est-ce que, pour reprendre un peu la discussion qu'on a sur la composition, il n'y a pas une frustration de ta part d'être dans une époque où finalement on compose plus comme on pouvait composer dans les années 80-90, le rock avec juste batterie, guitare, se retrouver dans une pièce, jouer, tester des trucs sans avoir des milliards de possibilités quand on est face à un ordinateur?
Oui et non, parce que des fois c'est vrai qu'on a tendance à se perdre on a tendance à vachement se perdre quand on a un ordinateur et qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ça fait perdre du temps parce qu'on teste plein de possibilités qui, bien souvent, on le sait d'avance, mais ça va pas être les bonnes.
On sait pas toujours par où commencer.
On sait pas par où commencer, on sait pas par où finir non plus. En fait, on a beaucoup trop de possibilités. Donc, c'est ça qui, finalement, des fois, fait que c'est quand même effectivement plus simple de prendre juste une batterie, une basse, une guitare et dire « Allez, on fait une chanson ». Mais moi, je trouve que les prods actuels, ou enfin ce qui peut se faire aujourd'hui, il y a des choses vraiment, vraiment hyper bien. Enfin, genre moi, je suis pas celui qui va se dire ouais, c'était mieux avant la musique, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui apparaissent, qui sont géniales. Enfin, moi, la musique d'aujourd'hui, je trouve qu'elle a un son, elle a quelque chose qui est vraiment, vraiment hyper cool, et j'ai envie aussi de piquer des trucs là-dedans, quoi.
Et puis au service de morceaux comme les tiens, il y a tout l'usage qui est fait du spectre grave et du côté un peu percussif de justement ces batteries programmées sert vachement aussi à dynamiser les titres. C'est-à-dire que toi, t'as des titres qui sont pleins d'énergie et qui peuvent être dansants, là où si vous les aviez composés en groupe dans un garage, admettons, il y aurait eu un côté plus enfin quelque chose qu'on connaît un petit peu déjà de morceaux de groupe de rock un peu plus standard.
Ouais, c'est ça, j'ai envie quand même de me surprendre et de pouvoir me dire ah tiens, le son que je suis en train de faire il m'appartient qu'à moi, et j'ai pu piquer ça dans des trucs neufs, ça dans les trucs anciens. Moi, j'aime bien, juste encore une fois, la manière un peu de Pete Doherty dans les Libertines. Tu sens que t'as un batterie et basse qui est hyper carré, machin, ça aurait pu être une boîte à rythme, c'était pareil, enfin j'exagère, mais voilà. Et derrière, t'as les guitares qui sont dégueulasses, la voix qui bave et tout, et je trouve que c'est bien d'avoir toujours un peu un mélange de trucs super carrés et de trucs qui bavent, et je trouve que justement les boîtes à rythme, c'est bien pour ça, quoi. C'est que ça permet de donner un cadre précis, et là-dedans, après, tu peux déborder, faire un peu ce que tu veux. Et en termes de précision de son, une batterie, c'est extrêmement compliqué à mixer.
Oui.
Donc forcément, pour se donner un premier aperçu avec une batterie qui tape bien, des boîtes à rythme, souvent c'est beaucoup plus parlant. Donc, ouais. Mais par contre, c'est toujours bien d'avoir aussi un côté vivant dans le disque. Et donc je pense que c'est bien de pouvoir mêler les deux quand même. Mais en live, par contre, tu disais oui, c'est plus rock parce que effectivement. Enfin, moi, ça m'amuse plus d'avoir un batteur et un bassiste qui jouent les mêmes parties, mais en mode ça te donne envie de faire le fou, que d'avoir une bande son derrière où finalement c'est pas vivant, quoi.
Mais ça, les artistes y reviennent de plus en plus, hein, à avoir des batteurs sur scène, voire même des bassistes parfois, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent.
Justement, sur ce live, donc on parle en tout cas. La dernière fois que je t'ai vu, c'était ta première date en headline, on va dire. C'était au Point Éphémère. Il y avait donc tous les titres de l'EP que tu as joué, mais aussi des nouveaux titres qui vont être prochainement, j'imagine, sur l'album. Et je trouvais que tu partais dans une direction très rock. Est-ce que c'est affirmé? Est-ce que c'est juste pour le live? Est-ce que ça va s'affiner avec le temps? Comment...
C'est ni l'un ni l'autre. Encore une fois, je pense que c'est il y a des morceaux qui ont été pensés aussi pour le live, pour amener aussi certains moments où il y a plus d'énergie, où ça peut ça peut se bousculer, etc. Enfin, tu vois, mais c'est les morceaux sont pas enfin je vais pas faire un album de rock, si c'est ça que la question, mais j'ai envie aussi de pouvoir donner des morceaux qui tapent aussi un peu plus. Alors, est-ce que ça va se ressentir dans l'album? Je sais pas. Enfin, là, on les joue en live. En réalité, la production de ces morceaux-là, elle n'est pas encore bien avancée. Des fois, elle est juste sous forme de maquette. Et justement, on les essaye en live et après, on voit ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et, en tout cas, j'ai envie de même si c'est pas forcément, si je ne vais pas vers un album rock forcément, j'ai quand même envie de donner quelque chose de plus organique à ma musique, parce que je me suis rendu compte que certaines personnes qui des fois étaient passées à côté de mon EP ou de ma musique, à chaque fois on me dit putain, j'ai pris une tarte à ton concert, j'ai pas compris ce qui s'est passé, trop bien. Et donc il y a un décalage des fois qui se crée entre la compréhension que les gens ont de ma musique en CD et en enregistrement
et en live.
Et du coup j'aimerais bien quand même entremêler un peu plus ces deux côtés là.
Faustine,
t'anticipes un peu ma question parce que j'allais te demander si tu te considérais du coup plutôt comme un artiste de studio ou un artiste de live, étant donné qu'a priori les deux sont quand même différents et que là on parle beaucoup de ton EP évidemment qui vient de sortir et que la situation fait que les concerts sont quand même plus rares. Donc toi tu te considères plutôt quoi?
Je me considère 100% comme un artiste live, même si pour moi le studio c'est quelque chose auquel j'ai pris goût parce que voilà, je suis quand même dans le son, je mixe, j'aime bien le studio. Pour moi c'est une expérience qui est super et c'est un plaisir à chaque fois. Mais par contre si je devais choisir entre les deux, c'est 100 fois le live parce que c'est là où je pense que je me démarque vraiment.
On te prend, nous, après une semaine que tu as passé, on échangeait un petit peu avant, en amont de l'émission, quand on l'a préparé, une semaine que tu as passé un peu à écrire, on parle de ton album à venir. Toi, sans en dire trop, sans parler d'annonce ou quoi, où est-ce que tu en es actuellement dans la composition, la préparation de tes futurs morceaux, de la suite pour toi? Est-ce qu'on est dans la partie où tu dessines un peu le début de tout et on voit comment ça évolue, ou est-ce qu'il y a déjà des choses assez précises, assez finies?
J'en suis un peu, je pense, au premier tiers de la réflexion. J'ai déjà une dizaine de morceaux de près où je pourrais me dire là, allez, je fais un album. Mais il y a quand même une majorité de morceaux que j'ai qui sont assez anciens et j'ai envie de me dire que si pour l'EP, j'ai accumulé pas mal de morceaux qui soient très vieux ou nouveaux, là, j'ai quand même envie qu'il y ait plus de trucs nouveaux que de trucs anciens pour pouvoir avoir une fraîcheur sur ce que je dis, sur ce que je raconte, etc. Donc, sachant que là, pour l'instant, j'ai quand même plutôt des anciens morceaux. Mmh. Enfin, je veux dire, des morceaux que j'aurais même pu mettre dans l'EP, mais que j'ai pas mis, en fait. J'aimerais bien attendre de pouvoir me dire que j'ai un répertoire quand même plus gros pour pouvoir faire un choix et donc voilà, donc pour l'instant ça reste quand même un début. L'album sera quand même à mon avis dispo en 2022, plutôt dans la fin que dans le début, mais je travaille dessus, ouais.
Tu le sais, on est programmateur et programmatrice ici, et donc notre quotidien c'est un peu de se faire écouter de la musique en fait, de s'envoyer des morceaux et d'en discuter, et on aime bien demander aux artistes qu'on invite de venir nous parler aussi de la musique qu'ils aiment. On t'a demandé 3 morceaux que tu appréciais et je vous propose qu'on écoute le premier, qui est « C'est un jour comme un autre », un duo entre Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.
Un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà.
Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce titre?
Alors déjà, je trouve que la mélodie est magnifique.
Ouais.
Je trouve vraiment en plus la voix de Brigitte Bardot dans ce morceau, elle chante super bien. Et ce qui est fou en fait, c'est que cette chanson-là, elle est écrite avec des mots très simples. Et même les rimes sont, quand tu décortiques le texte, je veux dire, il fait rimer autre avec autre.
Ouais.
Enfin, le texte en fait, si juste tu te penches dessus. Je fais wow, en fait c'est pas, et pourtant je le trouve dingue ce texte, enfin genre je trouve ça extrêmement bien écrit et c'est beau quoi, simplement voilà, aujourd'hui c'est un jour comme un autre mais t'es plus là on est éloigné, enfin c'est tout bête en fait, mais je pense que c'est la chanson qui représente le mieux cet état là enfin.
Il y a quelque chose dans la mélodie, et à la fois de la voix et de la guitare, qui vont venir taper au même endroit. Et qui fait que ça reste très bien. Et c'est vrai que c'est beau sans être compliqué.
Exactement.
Un autre titre que tu as voulu nous faire écouter aujourd'hui, c'est Cupid Streak d'Eliott Smith.
She's shaking down shock, reaching out for the hands of the clock. Sugar light, lift me up, it's my life. Sugar, lift me up.
Je te vois lever le pouce, Faustine. C'est un morceau que t'apprécies beaucoup, toi aussi.
On écoute tout son album, tout le reste de l'émission.
Tu valides, Yann. Elliott Smith, c'est un artiste dont tu nous as déjà parlé, qui a compté beaucoup pour toi. Qu'est-ce que ce morceau a de particulier?
Je pense que j'aurais pu mettre, comme tu dis, hein, tout l'album, parce que je trouve que c'est un album de fou. Mais ce titre-là, c'est vrai que je sais pas, il me met des frissons à chaque fois. Et ça fait partie des artistes que j'essaye même pas d'écouter ce qu'ils racontent. Enfin, juste, ouais. J'entends leurs chansons et ça. Déjà, ça me transporte à fond, quoi. Ça m'évoque vachement de choses, en fait. Ça m'évoque des films que j'aime bien, alors que la musique est pas forcément dedans. Ça m'évoque juste un état de moi-même qui, je sais pas, un peu rêvé, etc. Enfin, ça. Et puis sa voix, elle est. C'est pareil, c'est une voix particulière. Il y a personne qui a sa voix et. Tu sens toute la sensibilité dans ce qu'il fait et la simplicité finalement, parce qu'il a juste sa guitare et t'entends les instruments au loin derrière, un peu comme Neil Young disait. C'est là où tu vois que finalement ces chansons sont super, quoi, parce que sinon il serait plutôt derrière ses instruments et là, enfin, tu vois, il est tout devant, il chante et c'est beau, quoi.
Le troisième et dernier titre dont tu avais envie de nous partager, c'est un morceau, et ça pour le coup, je pense que personne dans la fraîchiste n'aurait songé à Françoise Hardy. C'est vrai que nous, enfin, à titre personnel, en tout cas, moi je n'écoute pas spécialement Françoise Hardy, et c'est pas la référence qu'on entend le plus de la part des artistes avec lesquels on discute, mais tu as choisi le titre « Mon ami la rose ».
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille.
Tu connais toutes les paroles, Faustine. Quand je dis qu'on n'a pas forcément cette référence-là, c'est faux, en fait. Toi, tu l'as.
Eh oui, voilà.
Pourquoi ce titre de Françoise Hardy?
Bah, parce que je l'ai découvert quasiment la veille où tu m'as demandé les trois morceaux.
Ok.
En fait, qui, justement, bah, comme tu dis, finalement, c'est pas une référence que j'ai réellement, Françoise Hardy. Mais je découvre ce texte parce que ça m'arrive maintenant d'aimer des chansons pour le texte. J'aurais jamais pensé dire ça
il y a quelques années,
mais aujourd'hui c'est le cas. Et je trouve que le texte, il est. Ouais, il est beau, quoi. C'est vrai que, bon, c'est encore une fois, c'est assez simple, hein. C'est vrai, on est. Des fois, on est un peu. Enfin, on est comme une fleur, quoi. Des fois, on se trouve beau, on est tout ça. Et puis finalement, le temps fait que. Voilà, enfin, on se fane et c'est normal. Et je sais pas, enfin, la manière qu'elle a de raconter ça dans cette chanson, je trouve ça très, très joli.
Eh bien, on va se quitter, Yann, en écoutant la fin justement de ce texte de Mon ami la rose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission.
Merci à vous.
Son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
C'est déjà l'heure de la dernière partie de cette émission, partie dans laquelle nous, programmateurs et programmatrices de Radio Campus Paris, on aime vous parler des morceaux qu'on a choisi de diffuser en ce mois de décembre. On a préparé une petite sélection assez éclectique, assez représentative. Et le premier de ces morceaux, c'est ce titre de Jay Luna, I'm Having a Hard Time Being Myself, un morceau que personnellement j'ai découvert sur TikTok et qu'on va écouter tout de suite.
Being optimistic is insane. And Everybody's got a taste of fame. I could buy an alcohol and pray. In May, traded mom and pop for East LA. Packed me up and sent me on my way. But when we talk, I know they wish I'd stay. I'm having a hard time being myself all of the time, all of the time. And everyone asks me if I'm doing well, and I just been lying, I just been lying.
Jay Luna, qui n'est pas un musicien qui a émergé vraiment sur TikTok, il a déjà deux EP albums, je sais pas comment on pourrait dire, des projets qui sont déjà sortis, mais il s'est vraiment révélé sur cette plateforme, je trouve, par sa façon de mettre en scène ce qui se passe dans sa tête quand il compose. C'est-à-dire qu'on a une musique assez foisonnante en termes de son de percussion, lui est guitariste aussi, et il a ce montage très cut qui montre l'accumulation de choses qui lui passent par la tête au moment où il compose. Et voilà, I'm having a hard time being myself, qui est un titre qui n'est pas sur un projet en particulier. Je pense que sa notoriété grandissante sur TikTok va lui permettre de sortir un projet prochainement qui sera beaucoup plus écouté, hein, que les deux premiers en tout cas. Donc un artiste qui n'est pas vraiment une pépite émergente, mais qui est dans cette vibe de musicien TikTok, en tout cas fait partie de ceux que je trouve très intéressants à suivre. I just been lying, I just been lying. Some people make it look so easy. I'm not made for TV. I'm completely lost. All of the time, all of the time. Got a light on my mind. With myself, me and I. Am I holding on? Am I just lying? My mind, with myself, me and I. And I'm tired as fuck, I can't lie. All of the time, all of the time. And everyone asks me if I'm doing well. And I just been lying, I just been lying. Some people make it look so easy. I'm not made for. Un artiste qui pour le coup est beaucoup plus une pépite émergente, comme on aime aller nous en dénicher en tant que programmateur, c'est AC, dont on a choisi ce mois-ci de diffuser le titre I Miss You XOXO. Il y a un feeling vraie batterie sur ce titre.
Ouais, en fait, on a direct envie de, je sais pas, de jouer de la batterie, quoi.
Ouais, complètement, comme tu le faisais avec tes mains.
De la air batterie.
Alors, actuellement, IC, qui est un rappeur que moi j'ai adoré découvrir le mois dernier, qui a vraiment cette vibe rap SoundCloud. Ça fait 2 ans qu'il sort beaucoup de morceaux sur SoundCloud, dont certains qui ont beaucoup tourné, hein, qui sont même devenus un peu populaires sur Spotify. Ça reste un artiste émergent, qui a pas encore de projet défini, conclu, qui sortirait, qui je pense les prépare. Et moi j'avoue que ce qui m'a attiré tout de suite dans un titre comme ça, c'est l'écriture du nom du titre, avec ce côté très MSN que moi j'aime beaucoup, qu'on peut retrouver chez d'autres artistes qu'on diffuse. Baby Solo 33, je pense beaucoup moi quand je parle de ça. Donc voilà, un artiste que je suis assez fier qu'on diffuse, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de radio FM qui passe AC aujourd'hui, quoi.
Ouais, et puis il a une façon assez intéressante de s'exposer aussi au public avec des vlogs.
Ouais.
Il filme beaucoup tout ce qu'il fait, les sessions studio, la façon de créer et tout, qui est un peu brut et qui, je trouve, lui va assez bien, quoi. Mon cœur dans ta corps, mes sentiments sont mortels. Je manque un peu. C'est la
rester dans cette vibe hein, de toute façon de rappeur de cette scène, nouvelle scène rap un peu alors, on dit SoundCloud, je pense qu'ils viennent pas tous de SoundCloud au bout d'un moment, faut arrêter avec cette étiquette là et puis c'est pas toujours cette esthétique là, mais on va parler de nouvelle scène rap, nouvelle scène rap émergente avec un titre de South Love, de son projet Swag School Musical, pardon, je recherchais le titre que j'aime beaucoup, titre en featuring avec Rosie Superstar.
C'est mon birthday, huh. MLS beat le cake, huh. Wow, wow, le money, huh. Pour toi je serai pas late, huh. La bitch me dit qu'elle est timide, huh. Elle veut le faire dans le noir, huh. Elle voulait juste fuck avec une superstar.
Avec une superstar, yeah, elle veut fuck une superstar. Il est super tard, on s'approche de la monde. Elle est exclusive, mais avec moi rien qu'elle monte. Yeah, avec moi, ouais, rien qu'elle monte. S'approche de la moune, chasse l'œuf qui roule sur la bande, la zaza qui couche.
Un morceau qui bounce, ça c'est ce qu'on aime. À la base, moi j'avais surtout envie qu'on diffuse un morceau de Swag School Musical, parce que je trouvais que c'était un projet important de cette période de l'année sur cette scène-là. Mais c'est vrai que j'étais arrivé avec un autre titre, je crois que j'étais arrivé avec No More, et c'est toi Simon qui m'a parlé de diffuser le feat avec Rosie.
Ouais, ouais, parce que je trouve que Rosie, bah, on parle de cette scène-là, c'est pour le coup un petit électron libre qui est en train d'émerger. Il a sorti un projet dans l'été qui s'appelle Le Secret le mieux gardé, et s'inscrit totalement dans la lignée de ces nouveaux artistes qui s'approprient un peu des codes qui sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de connaître dans le rap français et qui s'identifient assez facilement par des façons de poser, par des voix, par des instrus qui sont assez intéressantes. Je trouve que le morceau en tout cas qui les rassemble, il est assez il montre en fait voilà ce qu'il en est de cette scène quoi à l'heure actuelle quoi, il décrit assez bien ce qui se passe sur cette scène là quoi.
J'investis la money, je la get it back. Catch ta bitch, tu l'auras pas back. Et bientôt j'aurai sauvé 12 dans le bec. Quand on va le faire, elle est toujours wet. Tu t'es fait griller et maintenant tu cries à l'aide. Et c'est mon birthday, MLS beat le cake, wow, wow, le money, pour toi je serai pas late, la bitch me dit qu'elle est timide, elle veut le faire dans le noir, elle voulait juste fuck avec une superstar.
Dans un registre relativement différent, Telemona, le titre 3AM que tu nous avais proposé, Simon, qu'on va s'écouter tout de suite.
C'est un morceau de Telemona qui est un artiste italo-australien.
T'aimes bien nous ramener des Italiens, toi.
Ouais, des Italiens, mais alors là, pour le coup, lui, il chante en anglais, il est basé à Brisbane. Et fun fact ou pas, hein, mais
fact.
En gros, fact, c'est que c'est pas du tout un artiste, je veux dire, qui est connu, implanté, qui fait des tournées, etc. Du moins pour l'instant, parce que j'imagine qu'avec ce titre-là, ça va un peu changer plein de choses pour lui, mais. En fait, à l'en croire la bio Spotify, c'est un dessinateur industriel qui voilà, mène une vie, on va dire, assez classique de dessinateur industriel et qui, à côté, fait de la musique.
T'as une vision, toi, de ce qu'est la vie classique d'un dessinateur industriel?
Absolument pas. Absolument pas. Non, mais j'imagine, enfin, je veux dire, on peut s'imaginer plein de choses quand on pense à un dessinateur industriel. Voilà, il s'avère que lui, à côté, il a ce projet musical, il a sorti deux titres, dont celui-ci, 3AM, et qui se retrouve d'un seul coup playlisté dans plein de playlists cool sur Spotify. Qui se retrouve évidemment playlistée dans la Freshlist de Radio Campus Paris.
La playlist est plus cool de Spotify.
La playlist la plus cool de Spotify. Et voilà, et en fait, il y a énormément d'influence dans ce qu'il propose. Il y a un refrain qui est super accrocheur. Enfin, c'est très joli, c'est très bien fait. Et voilà, après, il est difficile, j'avoue, de trouver plus d'infos au sujet de l'artiste. Je crois qu'il a même pas 600 followers sur Instagram. Enfin, c'est vraiment tout petit, mais la musique est déjà très grande.
Crying, and I'm crying, trying to tell myself it's okay, but I'm lying, I'm lying.
Des infos, en revanche, on en a un petit peu plus sur l'artiste suivant, qui s'appelle Sensera, duquel tu nous avais ramené en réunion le morceau Globo.
Estoy inflado como un globo. Quiero más, quiero hacerme con todo. Por si algún día exploto. Si algún día exploto como un globo, globo. Define la propuesta que me das para que yo no me vire. Si todo lo que estaba a cuestas hace un tiempo me lo quité. Quiero demostrarme lo que de siempre sé, comprarme un regalo cada día del mes. Estoy inflado como un globo, como un globo. Cada día que pasa me ilusiono, cada día que pasa me enamoro. No sé si como un niño un bobo. Prendo una.
Cette guitare est incroyable.
Ouais, elle est absolument incroyable et je pense que c'est ce qui accroche tout de suite quand on... Évidemment, le morceau s'introduit là-dessus, mais je trouve que le fait en 2021 de sortir un morceau quasi guitare-voix sur cette scène-là et avec cette esthétique-là, c'est assez exceptionnel.
Mais parce que dans une prod un peu plus classique, on imaginerait très facilement un drop avec des hats qui viendraient et c'est pas ce que cherche à proposer le morceau et c'est très bien comme ça, je trouve.
Ouais, et je trouve que ça, du coup, le met dans quelque chose d'assez spécial, de trap un peu psychédélique, de new R&B. Enfin, c'est une sorte de truc hybride qui est assez intéressant, assez cool à écouter, quoi. Voilà. C'est un artiste qui est originaire de Galice. Je sais pas si on dit Galice, mais c'est une région du nord-ouest de l'Espagne. Et qui maintenant est basé à Madrid. Il a déjà sorti 4 projets. Et aujourd'hui, voilà, il revient avec ce morceau Globo qui est assez cool, assez intéressant.
Une artiste qu'on est hyper heureux de retrouver dans la Freshlist, bien sûr, c'est O7O Shake. On en avait parlé au moment de la sortie de leur album. Aujourd'hui, elle revient avec un titre en featuring avec Generation, qui est moi quelqu'un que je ne connaissais pas et que tu nous as proposé, le morceau Neo Surf. Oui, elle est en featuring sur le titre de Generation, c'est ça, avec le morceau Neo Surf.
Searching for this feeling, I'll give you still the stage, give you still.
Sénégal au Seven O Shake.
Ouais, c'est incroyable. Ce titre est absolument incroyable. Alors, juste pour préciser, effectivement, c'est le retour du duo Generation, qui est en fait un duo composé du producteur français.
C'est un duo, pardon.
Oui. C'est le producteur français Surkin et Romain Gavras, le réalisateur.
Ok.
Donc, les clips sont assez. Le clip, en tout cas, de ce titre est assez incroyable. C'est produit par Iconoclast. Et effectivement, ils reviennent avec un album qui va être un album collaboratif, évidemment, sur lequel on retrouve sur le premier titre 07 O'Shake. Mm-hmm. Et pour moi, ce titre, c'est juste un tube, quoi. C'est le tube de la fin de l'année 2021. Je trouve que ce titre est incroyable. Le clip est incroyable. Ça s'appelle Neo Surf. C'est super frais, quoi.
Tu dirais que c'est le tube de la Freshlist de décembre?
De décembre, ouais. Enfin, après, j'ai évidemment, il y a d'autres super titres, mais je sais pas. Pour lui, il y a un truc vraiment spécial, quoi.
Dans nos autres super titres, justement, il y a ceux que Camille nous a proposé lors de notre dernière réunion, notamment le titre Le Manège de November Ultra. November Ultra, qui est une habituée de la Freshlist, qu'on adore diffuser, qui est de retour avec ce titre Le Manège, Camille, que tu nous avais proposé.
Tout à fait. Oui, et d'ailleurs, c'est plus un titre de novembre que de décembre, puisque tout son projet s'articule autour du mois de novembre, d'ailleurs. Elle avait sorti un EP à peu près à la même date. Enfin non, son premier titre, pas un EP, à la même date en novembre 2020. Et voilà, moi, le projet de November Ultra, qui n'est pas son premier projet, mais qui est son premier projet en solo. Je suis complètement fan. Je trouve qu'elle a vraiment une des plus belles voix actuellement sur, de l'industrie, en fait. C'est sublime tout ce qu'elle fait. Et voilà, et on la diffuse maintenant avant que ça devienne une très grosse superstar.
C'est ça.
Parce qu'elle ne restera pas. Enfin, elle est déjà plus émergente, mais en tous les cas, c'est un peu les dernières occasions de la Freshlist diffuser.
Qui sait, on suivra, on diffuse aussi des artistes plus importants. Mais en tout cas, on est très heureux de voir l'ampleur que ça prend aussi
tout
pour
fait.
Elle.
Voilà.
On diffuse que les pépites.
Que les pépites.
Parfois, il y a de très grosses pépites aussi, des pépites très importantes. Dans un autre registre, un registre que moi j'aime énormément, il y avait ce morceau de Tevani, Do You Wanna Dance, qu'on va s'écouter tout de suite.
Thank you.
vibe, cette vibe garage punk que nous on aime tant, qu'on peine parfois un peu à représenter, mais que tu as représenté parmi nous ce mois-ci, Camille, avec ce titre de Tevani.
Oui, et ce sont des tourangeaux, c'est en partie pour ça que je les ai proposés. Non mais c'est, il y a rarement des, enfin on parle rarement des artistes de la région centre quand même, on n'en connaît pas tant que ça. Et voilà, et Do You Want a Dance, c'est, alors ça a été un single mais qu'on retrouve aussi sur un album qui est le premier album du groupe. Alors que le premier projet avait été, enfin, est sorti en 2017 avec l'EP Motel Vanilla. Et voilà, c'est un groupe du courant, enfin des nouveaux courants alternatifs rock de la scène française qui font beaucoup penser à ce qu'on peut déjà écouter de l'autre côté de la Manche. Moi, ça me fait beaucoup penser à Idols.
Oui, tout à fait.
Et voilà, mais c'est un projet qui est très structuré, pluridimensionnel, avec de la vidéo, de la musique, etc. Et voilà, et c'est un bon album, et Do You Wanna Dance, c'est un bon titre, quoi.
Après cette petite danse assez punk, on va s'écouter le dernier titre qu'on a choisi de vous proposer aujourd'hui, qui est le morceau Grand Large de Yoa.
Tout redescend. Tout redescend. Tout devient blanc, là vers l'avant, le vent s'est levé sur la plage, je vois danser les coquillages, au loin résonne l'écho de ma peine en morceaux. Enfin porté par le grand large, je sens mon corps.
Grand large de Yoa, un titre délicat, un titre reposant, j'ai envie de dire.
Ouais, et puis qui se lance après, là on va l'entendre dans les quelques secondes qui suivent, avec une prod derrière assez bien ficelée. Et est-ce étonnant de savoir qu'il y a derrière ces prods Alexis Delon, dont on parlait tout à l'heure, Ian Caulfield.
Il est partout,
voilà, assez prolifique aussi sur la nouvelle scène émergente. Évidemment, il ne travaille pas seul sur ce projet. Il y a aussi un autre artiste qu'on connaît à la Freshlist qui s'appelle Thomasy, qui est associé au projet d'Yoa. Et Yoa, du coup, c'est une jeune artiste. Donc, je dis jeune parce que son projet est assez jeune. Elle vient juste de sortir un premier EP qui s'appelle Attente, après avoir sorti deux premiers morceaux, Appartement et Diabolomante. Et elle est déjà en train de se faire identifier, d'émerger. Elle a fait une première partie de Feu Chatterton à l'Olympia il y a deux semaines. Elle a fait sa première tête d'affiche, on va dire, au pop-up du label il y a un mois et demi, au moment de la sortie de l'EP. Et voilà, du coup, elle est en train progressivement de s'installer et de proposer un projet qui est plutôt intéressant, quoi.
Tu parlais de première partie de Feu Chatterton, c'est ce que fera aussi Ian Caulfield, qui était avec nous à Reims en janvier. C'est la fin de cette émission. Je le mentionne ça parce que c'est la fin. Voilà, la transition n'est pas évidente.
Non, mais elle était plutôt bien articulée.
Merci beaucoup à toi, Camille, d'avoir réalisé cette émission, à toi, Simon, de m'avoir accompagné, à Faustine, qui était avec nous également pour une chronique, et à Yann, notre invité du jour. Nous, on vous donne rendez-vous dans un mois avec une nouvelle fraîchiste à vous présenter.
Enfin, dans un an.
Dans un an, je vais quitter cette émission.
Certainement pas, Simon. C'est interdit.
Monte vite la musique, Camille, qu'on se quitte avec autre chose. Avec un meilleur souvenir, c'est bon.
Tout redescend. Tout devient blanc. La vers le vent. Tout redescend. Dans les âges, et docteur, un jour je marierai un ange.
On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles. Bientôt vous serez à court, non. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change. Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. C'est jamais comme au cinéma. Décidément, on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change.
Oui, tout se voit sur ton visage.